Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, depuis 1996, depuis 28 ans donc, nous avons été au rendez-vous afin de vous proposer un résumé de 7 jours d'actualité, avec bien sûr les reportages de la rédaction et plus d'un millier d'invités afin de vous offrir quelques repères dans le flot incessant de l'actualité. Eh bien, ce voyage s'arrête aujourd'hui. Pour bien finir cette aventure, nous sommes en compagnie d'un de nos compagnons de route, Sedi Kaba. Nous entendrons tout à l'heure Yann Mince et même Kidi et Bébé. Et jusqu'au bout, nous allons revenir sur les faits saillants de la semaine à Moscou cette fois, ou à New York, Gaza ou Dakar. Et d'abord un souvenir, les lancements, comme on dit à la radio, de la première émission. C'était le 9 septembre 1996. Il y avait alors une semaine dans le monde, une semaine en France et une semaine en Afrique.
Une semaine dans le monde, Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, chaque semaine à cette heure-ci, dans une semaine dans le monde, nous vous proposerons une synthèse de l'actualité internationale. Ce rendez-vous sera pour vous, je l'espère, en quelque sorte un repère dans le flot des événements de la planète. Premier numéro aujourd'hui.
Une semaine en France.
Bonjour, chaque samedi à 7h, nous allons vous donner rendez-vous avec l'actualité de la semaine en France. Pendant 20 minutes, nous passerons en revue les principaux événements dans l'Hexagone, en essayant de prendre un peu de distance par rapport à la frénésie de l'actualité. Nous essaierons de mettre ces événements en perspective, grâce notamment à nos invités. Voici le premier numéro d'Une semaine en France.
Une semaine en Afrique.
Bonjour, désormais chaque samedi à 10h10 et 22h10, heure de Paris, nous vous proposerons une synthèse de l'actualité en Afrique. Chaque semaine, vous aurez l'essentiel de l'actualité sur le continent, avec l'analyse de spécialistes sur tel ou tel événement marquant. Voici donc le premier numéro d'Une semaine en Afrique. Alors là, c'était le 9 septembre 1996, pour être précis. Bonjour, Sedi Kaba.
Bonjour, Pierre-Édouard. Bonjour à tous vos auditeurs.
Donc, l'émission a commencé le 9 septembre 1996. Elle s'achève aujourd'hui, le 30 mars 2024. Et vous, j'ai eu le privilège, le bonheur de vous accueillir à partir de 2007, il me semble.
Absolument. Pendant 16 années, j'ai eu l'immense privilège et l'immense plaisir de venir à ces micros, de participer à une semaine d'actualité. Vous mesurez toute mon émotion de participer, d'avoir le privilège de participer à la toute dernière émission d'une semaine d'actualité.
Mais nous continuerons sous d'autres cieux, dans d'autres émissions, à travailler ensemble, je n'en doute pas.
Ce sera toujours avec un immense plaisir.
Alors, Sedic, vous venez de publier, parce qu'on va faire quand même une émission, hein, avec quelques témoignages qui vont la parsemer. Vous venez d'écrire « Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger, histoire secrète de la rupture ». Sénie Kounché, Boulama, manga aux éditions L'Armatan, c'est une page méconnue de l'histoire du Niger.
Absolument, c'est une contribution à la connaissance de l'histoire politique récente du Niger. Et la rupture entre Sénie Kounché et Boulama Manga, qui étaient deux des cerveaux du coup d'État du 15 avril 1974, qui a renversé Amani Diori, premier président du Niger, cette rupture n'avait pas été suffisamment éclairée. Et les Nigériens ne savent pas ce qui s'est véritablement passé. Et à travers ces livres, j'apporte donc une contribution pour lever le voile sur cette énigme coriace de l'histoire politique du Niger. J'espère avoir apporté cette modeste contribution.
Et c'est un livre passionnant, effectivement très détaillé, Sedic, où vous nous apprenez, vous nous rappelez qu'il y a eu plusieurs coups d'État au Niger. Le dernier en date, faut-il le rappeler, date du 26 juillet 2023.
Absolument, j'ai profité de l'apparition de cet ouvrage pour parler des 5 coups d'État que le Niger a connus. Le premier, le 15 avril 1974, le deuxième, le 26 janvier 1996, le troisième coup d'État, le 9 avril 1999, et le quatrième coup d'État, le 18 février 2010, et enfin le coup d'État du 26 juillet 2023. Et je fais une comparaison entre ces coups d'État pour surtout montrer que les deux premiers coups d'État ont été des coups d'État faits par l'ensemble de l'armée. Et en 1974 comme en 1996, c'était les chefs d'État-major de l'armée nigérienne qui ont été portés à la tête du pouvoir. Après, Le coup d'État de 99, c'est le patron de la garde présidentielle, Daouda Malam Wanké. En 2010, c'est le patron de l'unité la plus armée, la compagnie de commandement d'appui et de services, le commandant Salou Djoubo à l'époque, qui a pris le pouvoir. Et enfin, cette année, en 2023, c'est le général Tchani qui est le patron de la garde présidentielle. Donc je pense que cet éclairage permet de faire une évolution comparative des coups d'État au Niger.
De mettre en perspective la situation politique actuelle d'ailleurs du Niger.
Absolument.
Alors nous allons faire des allers-retours entre l'actualité, votre actualité, Sédic, et l'actualité de l'émission. Avec cette dernière, une semaine d'actualité n'aurait pas été tout à fait une semaine d'actualité sans la réalisation de Vanessa Rovensky, qui bien qu'absente de la radio aujourd'hui, a tenu à être présente dans cette dernière émission. C'est la première fois que vous allez l'entendre, vous qui connaissez bien sûr son nom.
Salut à tous les auditeurs de RFI et en particulier aux fidèles d'une semaine d'actualité. Merci pour votre confiance et votre fidélité durant toutes ces belles années. Même si l'actualité est souvent grave, nous nous sommes efforcés, Pierre-Edouard avec sa voix et moi, grâce à la musique du monde entier, de vous la rendre chaleureuse. La semaine d'actu, comme on l'appelle entre nous, c'est fini. C'est la fin d'une belle traversée qui, pour moi, a duré presque 20 ans. Mais notre amicale collaboration avec Pierre-Edouard, elle, n'est pas terminée. Idée continue, tous les dimanches à 17h10, temps universel. Merci pour vos messages chaleureux, par milliers. Et gardez l'écoute sur RFI. L'actualité, elle, ne s'arrête jamais.
La réalisation fine, discrète et pertinente de Vanessa Rovensky, que vous appréciez, Sédic.
Absolument, un lien personnel s'est créé entre Vanessa, moi-même, une semaine d'actualité est presque une famille. Je ne manquerai pas à cette occasion de faire une certaine indiscrétion sur notre partie de cacahuètes qui précède l'émission.
Je crois qu'on va en parler un peu plus tard.
Absolument. Oui. Donc, une semaine d'actualité a créé des liens personnels, au-delà des liens professionnels, entre l'invité et ce qui l'invite, ce qui anime l'émission. Des liens personnels se sont tissés et j'apprécie à la fois la finesse, l'élégance et le professionnalisme de Vanessa.
Sept jours dans le monde.
Et nous allons, pour la dernière, comme pour la première, et comme pendant 28 ans, donc résumer l'actualité de la semaine de façon un peu plus concise cette semaine. Enfin, cessez-le-feu pour Gaza, officiellement, Sédic Abba, réclamé par ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale. Il aura fallu 5 mois et 3 semaines pour s'entendre et demander pour la première fois de stopper les bombardements dans l'enclave d'une seule voix. Le Conseil de sécurité a donc voté à 14 voix en faveur de ce texte, qui exige aussi la libération immédiate des otages et réclame que des médecins et des humanitaires puissent les voir au plus vite. Les États-Unis se sont abstenus à New York. Karine Houghton.
Le cessez-le-feu réclamé ne devrait courir que jusqu'à la fin du Ramadan, le 10 avril. Cela montre combien les négociations sont restées tendues ici à New York. Comme les États-Unis hésitaient encore, le reste du Conseil les a poussés à appeler au même cessez-le-feu le temps du Ramadan qui a été demandé pour le Soudan. Si Washington avait bloqué une telle demande, cela aurait été un mauvais signal. Et puis, même s'il s'en défend, Joe Biden a changé de position vis-à-vis de son allié israélien depuis quelques jours. L'entêtement de Benjamin Netanyahou sur une éventuelle attaque de Rafah dans le sud de Gaza l'a poussé à hausser le ton et ne plus le protéger sans condition par son droit de veto à l'ONU. Juste après s'être abstenu et avoir permis le vote de cette résolution, l'ambassadrice américaine est restée ambiguë et a laissé entendre qu'un cessez-le-feu à Gaza pourrait commencer seulement avec la libération d'un premier otage. Israël a immédiatement fait savoir que ce vote allait faire dérailler les négociations sur le terrain et, en signe de protestation, a annulé la visite de sa délégation qui était en route pour Washington, ce qu'a immédiatement regretté la Maison-Blanche.
Ça dit que Vladimir Poutine n'a pris la parole que le lendemain de l'attaque du centre de concert Crocus à Moscou qui a fait 143 morts vendredi soir dernier, il y a une semaine. Dans cette allocution, le chef de l'État russe n'avait rien dit du profil des assaillants. Il s'était contenté d'évoquer pour ses hommes des contacts en Ukraine. Cette semaine, donc, Vladimir Poutine a réuni son gouvernement et son conseil de sécurité et a précisé cette fois le profil islamiste des hommes mis en détention à Moscou, Anissa El-Jabri.
Il a fallu attendre 2 jours après la revendication pour que le mot soit prononcé pour la première fois. Vladimir Poutine dit bien que les hommes en détention depuis hier sont des hommes de l'EI, organisation bannie en Russie. Nous savons, dit encore le chef de l'État russe, que le crime a été commis par des islamistes radicaux. Personne n'en avait jusque-là parlé dans la classe politique, dans les médias officiels. Le silence était total, sauf sur les réseaux sociaux où la vidéo de revendication a circulé. Disant cela, Vladimir Poutine ne renonce pourtant à rien de ce qu'il a laissé entendre et laissé dire sur une responsabilité supposée de l'Ukraine. Nous savons par qui cette atrocité a été commise contre la Russie et son peuple, a-t-il dit. Nous voulons savoir qui est le commanditaire. Pour le chef de l'État russe, pas question de dévier. La principale menace qui pèse sur son pays reste l'Occident et ses alliés et pas le terrorisme islamiste.
Avant de vous retrouver, Sadiq Kaba, notons qu'il y aura bien un procès Trump au pénal en pleine campagne électorale. Il commencera le 15 avril à New York et ce sera dans l'affaire de la prostituée Stormy Daniels. L'ancien président et candidat républicain à la prochaine présidentielle n'a pas réussi à la faire repousser davantage cette audience. À Washington, Guillaume Nodin.
C'est la stratégie constante de Donald Trump depuis que les ennuis judiciaires s'accumulent pour lui. Tout faire pour repousser les échéances, si possible au-delà de l'élection présidentielle de novembre qu'il espère gagner pour pouvoir s'auto-amnistier. Sauf qu'à New York, dès la mi-avril, il devra répondre de 34 chefs d'accusation. Ce lundi, le juge en charge de l'affaire a décidé qu'il n'y a pas lieu, comme le soutenait la défense, de repousser davantage ce procès. Donald Trump est accusé d'avoir maquillé les comptes de ses sociétés, un crime dans l'État de New York, pour masquer le paiement en 2016 de l'actrice porno Stormy Daniels afin qu'elle garde le silence sur une relation sexuelle qu'il continue à nier. Montant de la transaction, 130 000 $ répartis en 34 chèques différents pour masquer le paiement, d'où les 34 chefs d'inculpation qui sont en fait tous le même. On a déjà vu des infractions plus importantes, mais dans l'État de New York, c'est néanmoins un crime passible de prison. C'est clairement l'affaire pénale la moins grave à laquelle est confronté Donald Trump. Les autres, beaucoup plus politiques, à Atlanta et Washington pour des tentatives d'inversion des résultats de la présidentielle de 2020 et à Miami dans l'affaire des documents classifiés sont dans les limbes de la procédure judiciaire et des différentes manœuvres pour les enterrer.
Suite de cette dernière édition d'une semaine d'actualité en compagnie de Sadiq Kaba, l'abstention des États-Unis au Conseil de sécurité n'est pas une première, mais c'est à remarquer.
Absolument, il y a une évolution de la posture américaine. Jusqu'ici, toutes les tentatives pour adopter une résolution sur Gaza ont fait l'objet d'un veto systématique des États-Unis. Mais là, au regard de la pression intérieure, c'est surtout la pression intérieure qui a joué. Au-delà même de la dégradation de la situation humanitaire, du sort des Palestiniens, le fait qu'une partie de l'électorat du président Bush ait fait pression en empêchant la tenue de certains de ces meetings dans la sérénité, l'a amené à faire évoluer la position des États-Unis. Mais il faut aller beaucoup plus loin compte tenu de la gravité de la situation à Gaza. Et je pense que la communauté internationale, juste sa crédibilité, cette communauté internationale qui se trouve paralysée selon les intérêts de pays membres, de pays qui détiennent le droit de veto, là, on a pu voir une évolution, je pense que... Mais on attend que la communauté internationale fasse plus sur Gaza.
La Russie, maintenant, s'est dit qu'elle a la volonté de Vladimir Poutine de faire un lien entre l'attentat d'il y a une semaine et l'Ukraine.
Oui, il y a une volonté absolue. Dans un premier temps, le président Poutine a dit que les auteurs de cet attentat étaient attendus en Ukraine. Ensuite, sans doute faute de preuves, il a dit en tout cas qu'ils avaient eu de contacts en Ukraine avant de perpétrer cette opération. Je crois que le président Poutine est dans sa posture qui consiste à incriminer l'Ukraine, à lui faire porter des responsabilités, y compris dans ce contexte où on voit que c'est l'État islamique qui a revendiqué, c'est des islamistes radicaux qui ont fait cette revendication. Je crois qu'il faut, au-delà de rivalité qu'il y a entre l'Occident et la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine, il faut considérer qu'il y a un ennemi commun, qui est le terrorisme qui peut faire des attentats. C'est même le mode opératoire qu'on a connu ici au Bataclan, où dans une salle fermée, l'attentat a été commis. Donc il faut, à mon avis, construire une réponse au-delà des divergences, puisque nous, au Sahel, on connaît les méfaits de ce type de terrorisme. Je crois qu'il faudra une coalition internationale, y compris avec la Russie et les pays occidentaux, pour combattre le terrorisme au lieu de s'en tenir à des divergences qui sont qui sont la prolongation de la guerre en Ukraine.
Alors, une semaine d'actualité spéciale dernière. Et si nous écoutions, Cédric, notre compère Yann Mince, fidèle et pertinent analyste de l'actualité, comme vous, je l'ai interrogé hier car il ne pouvait être avec nous aujourd'hui. Bonjour Yann Mince.
Bonjour Pierre-Edouard.
Vous êtes en ligne avec nous car vous ne pouviez pas être présent dans l'émission aujourd'hui, dans cette dernière. J'avais qu'une question à vous poser, une simple question. Quel souvenir conservez-vous de cette émission, vous qui êtes intervenu en son sein depuis 2008 ?
Des tas de souvenirs très agréables, très chaleureux, très sympas d'enregistrement. Et puis, comment dire, le souvenir de pouvoir parler. Ce que je veux dire par là, c'est que de plus en plus en radio, j'ai le sentiment, comme auditeur du coup, qu'un certain nombre de journalistes, d'animateurs d'émissions, sous prétexte de mettre du rythme dans l'émission, ne laissent pas leurs invités finir leurs phrases. Et je suis toujours très agacé comme auditeur quand je n'entends pas entendre la fin du propos de quelqu'un qui est interviewé. Et à une semaine d'actu, on avait ce privilège de pouvoir finir ses phrases, de pouvoir parler, et donc que l'auditeur puisse savoir en gros ce qu'on avait à dire. Et ça, je trouve, c'est de plus en plus rare, et c'est très agréable. Et pour moi, c'est une des vertus de l'émission. Après, sur le plan du fond, je dirais, je crois qu'on est aujourd'hui, grâce ou à cause d'Internet, comme on voudra, les réseaux sociaux, tout ce qu'on veut, on est bombardé d'informations factuelles sur ce qui se passe dans le monde. Mais des petits faits, sans arrêt, qui tombent dans tous les sens, venant d'un peu partout. Bon, c'est comme ça, on ne peut pas changer l'évolution des technologies et de la société, c'est comme ça, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a, je trouve, des pixels d'informations, des petits bouts. Et je pense que c'est nécessaire, régulièrement, pourquoi pas une fois par semaine, de remettre un peu tout ça en perspective et dans l'ordre, de façon à ce qu'on raccroche les faits qui ont des rapports entre eux, qu'on les mette en lien avec ce qui est plus ancien, ce qui est passé. Éventuellement, si on est audacieux, qu'on se risque à dire que c'est plus probable que ça aille dans ce sens-là que dans un autre sens. Mais ça, si les journalistes doivent toujours faire très attention à ne pas faire de prospective. Ce n'est pas leur boulot, ils doivent raconter ce qui se passe et le remettre en perspective. Et je pense que c'est nécessaire, ça, je dirais presque de plus en plus nécessaire, de pouvoir se poser et remettre les choses un peu en perspective, parce que je disais, on est, je crois, bombardé d'informations dans tous les sens, sans arrêt, qui viennent du monde entier. C'était très bien, c'était beaucoup moins le cas avant, où on était plutôt mieux informé sur ce qui se passait pas très loin de chez nous. Maintenant, on sait ce qui se passe, on peut savoir, si on le souhaite, savoir ce qui se passe un peu partout dans le monde. Encore faut-il arriver à trier tout ça, à le ranger et à le comprendre, parce que c'est quand même ça l'intérêt d'une émission comme Une Semaine d'Actu et de RFI, c'est de comprendre ce qui se passe dans le monde. Et ça, je trouve, c'est une tâche nécessaire et qui restera nécessaire, en tout cas.
En tout cas, ça se termine en ce qui nous concerne. Vous voulez dire un mot à Cédric Abba, qui est avec nous aujourd'hui et qui était aussi un intervenant régulier dans l'émission, on le sait.
Je voudrais saluer Cédric pour ses analyses et pour ses cacahuètes. Ses analyses d'abord, parce qu'elles sont toujours très, très bien étayées et très bien informées, et puis pour les cacahuètes qu'il apportait de temps en temps quand on participait à l'émission ensemble en fin d'année. Je vais peut-être trahir un secret d'État, mais je crois qu'il a une préférence pour les cacahuètes togolaises, tout panafricain qu'il soit.
Merci Yann d'avoir participé donc à cette aventure et puis à bientôt sous d'autres cieux.
Merci à vous de m'avoir reçu pendant toutes ces années.
Donc vous préférez les cacahuètes togolaises, non ?
Oui, par rigueur, je préfère les cacahuètes togolaises en toute objectivité. Maintenant, par nationalisme, je préfère les cacahuètes du Niger puisque moi, elles viennent de chez moi. Mais je pense que nous avons réussi à faire une sorte de géopolitique des cacahuètes d'Afrique et nous en avons ramené au moins des cacahuètes de 8 pays africains, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale.
Et nous salé avons, ou pas salé.
Salé ou pas salé, avec l'ail ou sans ail. Et nous avons essayé de faire un jury pour délibérer sur la qualité de ces cacahuètes et savoir quel est le pays qui devait remporter la palme d'or. Mais je pense que pour éviter des frictions internes, nous n'avons pas finalement proclamé les résultats et chacun a continué à déguster ses cacahuètes. J'espère qu'au-delà de l'émission, nous continuerons à faire ce travail de cacahuètes pour éviter qu'il y ait des faillites de cacahuètes sur le continent africain.
Bien entendu.
7 jours en France.
Et revenons, Cédric, à l'actualité de cette semaine. Donc, lors de sa visite en Guyane, Emmanuel Macron s'est rendu dans un village au cœur de la forêt amazonienne. Le chef de l'État a voulu aller à la rencontre des habitants de cette zone isolée qui subit les méfaits de l'orpaillage illégal. Valérie Gasse.
Emmanuel Macron est arrivé en hélicoptère à Camopi, où il a été accueilli par le directeur du parc amazonien de Guyane.
On rentre dans la forêt, ça donne un aperçu de la forêt primaire. Il nous manque le bruit du paille-paillot.
Une visite dans un territoire reculé de Guyane pour rendre hommage à sa population.
Nous avons des peuples autochtones qui occupent ces territoires et qui sont aussi la richesse de la Guyane, de la région amazonienne, mais aussi de la France.
Au milieu de cette forêt, Emmanuel Macron a aussi évoqué la question de la lutte contre l'orpaillage illégal, l'extraction sauvage de l'or, qui produit des dégâts sur l'environnement et la population, une priorité pour le chef de l'État.
On a réussi à commencer à réduire le volume d'or qui sont extraits par l'orpaillage illégal. C'était en moyenne 10 tonnes par an ces dernières années. On a réussi en 2022 à diminuer à 7 tonnes. Les chiffres provisoires de 2023 indiquent encore une baisse à 5 tonnes.
Face à ce trafic d'or, Emmanuel Macron souhaite une plus grande collaboration avec le Brésil voisin.
Notre volonté est d'avoir une gestion encore plus intégrée, scientifique, militaire et policière avec nos voisins brésiliens qui font face au même fléau.
Le Brésil, c'est la deuxième étape du déplacement d'Emmanuel Macron en Amérique latine. Une étape qui doit commencer par une rencontre avec Lula à Belém pour évoquer les questions environnementales.
Emmanuel Macron qui s'est ensuite rendu au Brésil en visite officielle. La proximité affichée avec le président brésilien Lula a tranché avec les relations glaciales entre M. Macron et l'ex-président Jair Bolsonaro. On s'en souvient. D'autre part, Gabriel Attal était l'invité du 20h de TF1. Mercredi, le Premier ministre a notamment dévoilé les derniers arbitrages du gouvernement sur le travail. Alors que le déficit public de la France a atteint 5,5% du produit intérieur brut, soit bien au-dessus des 4,9% espérés. Suite d'une semaine d'actualité, et avant de partir à proprement parler en Afrique, je voudrais qu'on revienne sur votre livre, Cédric Abba. Quelle était la nature des relations entre Sénic Kountché et Boulama Manga lors de ce renversement du président de l'indépendance?
Oui, ils avaient d'abord Kountché et le président Kountché et le commandant Boulama Manga s'étaient connus en 1965 à Maradi, qui était la capitale économique du Niger. Et à cette époque, Sénic Kountché était le chef d'état-major adjoint et Boulama Manga, qui était capitaine, était le commandant du groupement de gendarmerie. Ensuite, l'un et l'autre ont connu une promotion. Boulama Manga était devenu le patron de la gendarmerie nationale, le deuxième après Badia Garba, qui était le tout premier Nigérien à occuper le poste de commandant de la gendarmerie, puisque avant l'indépendance, la gendarmerie était dirigée par des gendarmes français. Donc l'un et l'autre sont le Boulama Manga, commandant de la gendarmerie, Sénic Kountché, chef d'état-major adjoint, ensuite le président Kountché, qui est devenu président, est devenu chef d'état-major, et ils ont presque ensemble eu cette idée de coup d'état. Et le premier déjeuner qui a conduit à la formation du Conseil militaire suprême, le directoire militaire qui a dirigé le pays, a eu lieu en décembre 1973 chez Boulama Manga. Ensuite, maintenant, ils ont coordonné l'organisation du coup d'État de décembre 1973 au 15 avril 1974. Et le jour du coup d'État, le 15 avril, la nuit du 14 au 15 avril 1974, Boulama Manga et Sénic Kountché étaient à l'état-major des forces armées pour coordonner les opérations du coup d'État. Ensuite, bon, quand il y a eu le coup d'État, le coup d'État a été consommé le 15 avril, le président Diori arrêté,
le président de l'indépendance,
Boulama Manga est devenu ministre des Affaires économiques dans le gouvernement de Kountché. Les relations ont toujours été bonnes jusqu'à cet épisode de juin 1980 où, à la suite d'un malentendu, puisque je crois que ce qui est important dans le livre, c'est que quand le livre a été, j'ai fait l'interview, le témoignage de Boulama Manga, Kountché, le président Kountché était déjà décédé. Lui, il est décédé en novembre 1987 à Paris. Et je n'ai senti ni rancune ni amertume dans les propos de Boulama Manga. Au contraire, il a fait preuve d'une grande admiration pour le président Kounché, qu'il présentait comme un patriote, comme un chef respectable, qui n'avait pas vraiment, qui était pour lui, c'était plus son destin qui explique ce qui lui est arrivé qu'une sorte de méchanceté de la part du président Kounché, et dont il a, à plusieurs reprises, en lisant le livre, vous verrez, il lui adresse une sorte de respect, une sorte de considération.
Respect aussi pour la première dame.
Absolument. Et respect du président Kounché pour la première dame. Comme on sait, cet épisode tragique de l'histoire du Niger sur lequel j'ai souhaité revenir, c'est que le 15 avril, la nuit du 14 au 15, lors du coup d'État, la première dame a été tuée lors de l'assaut des putschistes contre le palais.
Et ce n'était absolument pas prévu.
Absolument. Dans le plan que le Conseil militaire suprême a fait, et que j'ai détaillé dans le livre, il n'était pas prévu justement cette élimination de la première dame. C'était un épisode malheureux et le président Kounché l'a regretté à plusieurs occasions, dans des confidences à son entourage, a regretté cela. Mais je pense que des épisodes comme celui-là, la mort de la première dame ou l'assassinat du président Barré, sont des épisodes douloureux de l'histoire du Niger qu'il faut regarder en face. Et pourquoi pas essayer de voir dans quelle mesure le pays peut se réconcilier avec lui-même en réhabilitant ces deux personnages dont la mort a été tragique.
Alors revenons, Cédric, à cette dernière émission, une semaine d'actualité. Je voulais également dans cette dernière entendre la journaliste, éditrice et auteure Kidi Bébé qui, des années durant, est venue dans une semaine d'actualité pour commenter les événements, elle aussi, à l'appui de magazines pour les enfants. Je l'ai appelée, écoutez ce qu'elle nous a dit. Bonjour Kidi Bébé.
Bonjour Pierre-Édouard.
Je suis ravi de vous retrouver, ça me rappelle des souvenirs lointains car nous avons travaillé ensemble autour des années 2000 avec les magazines Planète Jeune et Planète Enfant où vous veniez chaque mois en parler et commenter l'actualité. Quels souvenirs conservez-vous de cette époque ?
Eh bien, des souvenirs vraiment très heureux parce que ce que vous aviez eu la gentillesse de faire, Pierre-Édouard, c'était de considérer la jeunesse sans condescendance, de lui donner toute sa place, toute sa dignité, et donc de considérer qu'un magazine panafricain d'information pour les jeunes et même un autre pour les enfants, puisqu'il y avait Planète Jeune et Planète Enfant, avait sa place à l'antenne de RFI dans votre émission.
Et c'était un moyen pour vous de faire de la radio, si je m'en souviens. Et ça marchait bien.
C'était effectivement un moyen pour moi de faire de la radio. Un petit coup de canif sur ma timidité, je dirais, puisque je suis plutôt une femme de la presse écrite. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'était de faire intervenir les jeunes. Et d'ailleurs, j'avais admiré ça avant même de venir à votre émission, puisque dans chaque numéro, il y avait quand même une adresse à des lecteurs à des auditeurs, pardon, qui vous écrivaient et à qui vous répondiez personnellement.
Et
ça m'avait beaucoup frappé.
Et c'était un moyen de parler à la fois de l'actualité au sens large et de l'actualité à chaque fois très factuelle de la semaine en cours.
Voilà, la semaine en cours, l'actualité de la semaine, et puis aussi essayer de porter un regard, quel regard, enfin s'interroger sur le regard que la jeunesse pouvait avoir sur tout ça, ou aider ces jeunes éventuellement à appréhender ces faits, c'est-à-dire ne pas leur parler avec hauteur, mais trouver les mots pour s'adresser à eux et décrypter cette actualité pour leur âge.
Eh bien, saluons tous les jeunes qui nous écoutent ensemble, Kidi, de tous ces jeunes qui étaient jeunes à l'époque et tous ces jeunes d'aujourd'hui aussi. Et on se retrouvera, je suis sûr, quelque part sur les ondes de RFI.
Absolument, on va rester jeune aussi, de toute façon.
Absolument.
C'est ça qu'il s'agit, un état d'esprit.
Évidemment, évidemment. Merci. Merci Kidi.
Merci à vous.
Restons jeunes, Cédric Abba, surtout. Alors, je n'oublie pas dans cette émission Anne-Lorraine Bujon et Anne Dugin de la revue Esprit que nous retrouverons dans le magazine Idée dans quelques semaines maintenant. Je voudrais saluer quelques-uns seulement des auditeurs qui nous ont écrit, que vous nous avez énormément envoyé de messages d'Afrique et de France aussi. Je salue par exemple Abdafrika qui nous écoute à Conakry, Gaspard à Douala depuis 2008. Tabla et à Pointe-Noire. Xavier, qui nous écoute depuis 1999 à Londres. Agnès, qui, elle, est à l'écoute à Rennes, sur Internet, en podcast, bien sûr. Je salue François, qui nous écoutait depuis 2014 à Bordeaux. Je salue Poséidon Migon, qui nous écoutait, lui, à Bégoto, qui nous écoutait à Doba, au Tchad, depuis 2010. Ibrahima, qui est journaliste à la télévision et radio nationale de la Guinée, qui lui était aussi un fidèle auditeur d'une semaine d'actualité. Les auditeurs sont très nombreux, ils se sont manifestés. Vous avez même eu un écho, Cédric.
Ah oui, j'en ai eu plusieurs. Je pense que je ne trahis aucun secret. Mais une de mes belles-sœurs m'avait dit une fois, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de me faire parler avec Pierre-Édouard. Et elle voulait absolument, à cause de cette émission. Je rappelle aussi, je rentre du Burkina Faso, j'ai vu dans un rendez-vous professionnel un auditeur, Ousmane Megankoli, pour le nommer, qui m'avait dit que cette émission avait structuré sa journée de samedi. Parce que quand il commence sa marche, puisque samedi, lui, c'est un marcheur, il fait son sport en marchant, c'est avec une semaine d'actualité qu'il marche et qu'il écoute. Il y a beaucoup de personnes sur le continent, je suis interpellé lors de mes différents passages, de gens qui me parlent d'une semaine d'actualité. Et aujourd'hui, je suis sûr que cette émission va leur manquer beaucoup.
Et en tout cas, je les salue et je salue quelques-uns d'entre eux encore. Mokhtar, qui aimait beaucoup vos interventions, s'est dit que celle de Yann, c'était le Graal, écrit-il. Je salue Emmanuel Alexandre, qui lui nous écoutait, il est médecin à Conakry. Ibrahima Daouda, lui aussi était un fidèle. Delvi, lui aussi aimait les émissions avec vous, Cédric et Yann. Il y a eu énormément de messages. Merci à toutes et à tous. Nous sommes toujours avec vous, même si l'émission disparaît. Et vous pouvez écouter évidemment RFI plus que jamais et écouter tous les dimanches le magazine Idées où nous nous retrouverons.
Sept jours en Afrique.
Et nous allons retenir deux titres de l'actualité africaine de cette semaine, Cédric Abba. D'une prison de Dakar au fauteuil de président, Bassirou Diomaye Faye incarne désormais le pari victorieux du principal opposant sénégalais, Ousmane Sonko, qui avait désigné son frère d'armes politique comme son suppléant en cas d'impossibilité de se présenter, ce qui fut le cas. Celui qui a cofondé le parti désormais dissous, le PASTEF, et fêté ses 44 ans, était quasi inconnu des Sénégalais il y a encore un an à Dakar, Léa Lisa Vestaroff.
L'ancien inspecteur des impôts a franchi discrètement les étapes dans l'ombre de son mentor Ousmane Sonko. Issu d'une famille d'agriculteurs séraires, Bassirou Diomaye Faye a étudié à l'École nationale d'administration du Sénégal, tout comme le leader de l'opposition, son aîné de 6 ans. C'est à la Direction générale des impôts et domaines que Bassirou Diomaye Faye rencontre Ousmane Sonko et c'est avec lui qu'il cofonde le parti désormais dissous, le PASTEF, en 2014. Décrit comme un homme rigoureux et méthodique, particulièrement réfléchi et particulièrement raisonnable, comme il se décrit lui-même, Bassirou Diomaye Faye se rend rapidement indispensable. Il est au cœur de l'élection présidentielle de 2019, à laquelle Ousmane Sonko arrive troisième. Il est considéré comme l'un des cerveaux du parti et a eu un rôle essentiel dans la rédaction du programme. Contre l'hyper-présidentialisme, ce musulman pratiquant s'affiche comme l'incarnation d'une nouvelle génération d'hommes politiques, à l'image de sa déclaration de patrimoine publiée le dernier jour de la campagne pour marquer sa transparence. Lui qui n'a jamais été élu ou exercé de fonction dans l'exécutif se retrouve désormais propulsé à la fonction de président. Il a promis hier de gouverner avec humilité dans la transparence et contre la corruption.
Ultime étape d'une semaine d'actualité au Togo face à la modification surprise de la constitution des partis politiques et des organisations de la société tentent de réagir sans succès. Mercredi dans la matinée, une vingtaine de partis et d'organisations de la société civile ont été dispersés au siège d'un parti politique à coups de gaz lacrymogène. L'après-midi, d'autres regroupements se sont vus refuser l'accès à une salle pour une conférence de presse. Pour les opposants à la réforme, c'est inacceptable car la situation est grave, selon eux, à Lomé. Peter Sassou Dogbé.
Mercredi matin, pendant qu'ils s'organisaient pour dénoncer la constitution votée dans la nuit de lundi à mardi qui va désormais régenter le pays, les opposants à la réforme se sont vus dispersés par les forces de l'ordre et de sécurité. Nathaniel Olympio, le président du Parti des Togolais, présidait la conférence de presse quand les forces de l'ordre l'ont interrompu.
Nous avons vu une unité de gendarmerie, ils étaient une trentaine, entrer dans le siège, présence de tous les journalistes. Et ils nous ont intimé l'ordre de sortir de la salle au motif que nous n'aurions pas d'autorisation pour tenir une conférence de presse.
L'après-midi, alors que les contestataires voulaient se réunir dans une salle, le propriétaire des lieux s'est vu intimer l'ordre par un coup de fil de ne pas accepter la conférence de presse dans ses locaux. Ils ont finalement pu se retrouver au siège de l'Alliance nationale pour le changement pour demander au chef de l'État de sursoir à la promulgation de cette nouvelle constitution. Maître Paul Dodia Pévon, président des forces démocratique pour la République.
Que le chef de l'État promulgue, ne promulgue pas. Nous sommes dans une bataille. Ils nous ont fait des choses tellement immondes dans ce pays que finalement, ils ont cru qu'ils n'ont plus de limites. Alors, c'est pour ça que nous sommes tous interpellés.
En attendant, le test voté à l'Assemblée nationale n'est toujours pas disponible. Beaucoup de supputations tournent autour de cette constitution. Les anti-réformes sont unanimes. L'opportunité et la procédure sont inacceptables.
Suite et fin de ce dernier numéro d'une semaine d'actualité, il s'est passé donc deux choses importantes. D'abord, l'élection présidentielle à Dakar.
Absolument.
Et un candidat atypique.
C'est une leçon d'espoir pour les démocrates africains au-delà du Sénégal. L'Afrique de l'Ouest a connu une vague de coups d'État et on s'est mis à désespérer presque de la démocratie. Face à ces crises, la démocratie a connu de crises dans cette partie. Mais le fait que le Sénégal donne cette leçon de démocratie me semble être porteur d'espoir à la fois pour le Sénégal et pour le reste du continent. On a assisté au Sénégal à un changement. Si ça ne tenait qu'au président sortant, je suis sûr que c'est son dauphin, Amadou Ba, qui aurait été élu. Mais compte tenu de la transparence dans laquelle le scrutin a été organisé, les opérations de vote se sont passées, ça a permis une alternance au Sénégal, puisque c'est un opposant, un homme inconnu, qui vient d'être élu au Sénégal. Ça pose pour lui la question du défi qu'il attend, puisque autant il y a eu un enthousiasme très grand pour l'accompagner, lui assurer une victoire au premier tour, autant il doit maintenant devoir répondre à toutes les aspirations. La deuxième chose importante, la leçon qu'on doit tirer, c'est que la démocratie ne peut se réduire pas simplement au vote. Même si les opérations de vote ont été transparentes, ont été régulières, ce qui a permis d'arriver à ce résultat au Sénégal, c'est l'indépendance dont a fait preuve le pouvoir judiciaire. Le Conseil constitutionnel, par deux fois, a rétoqué des velléités du président de rester au pouvoir. C'est ce qui a manqué dans d'autres pays où, lorsqu'il y a un contentieux électoral, on suit toujours la position de l'exécutif du pouvoir sortant. Dans le cas du Sénégal, cela a permis cette indépendance de la justice, la mobilisation citoyenne, et le rôle qui a été joué par la société civile, par la presse, tout cela mis ensemble a permis vraiment cette victoire de la démocratie au Sénégal. La démocratie a certes vacillé, puisqu'il y a eu quand même 65 morts dans les violences électorales. Entre mars 2021 et la tenue de cette élection, il y a eu des morts. Mais la démocratie est restée solide parce qu'on a trouvé des institutions solides. Je crois que c'est cette leçon-là que les Africains doivent tirer.
Le Togo et le changement de constitution, qui veut dire un peu changement de régime.
Oui,
régime.
Malgré, même s'il y a une opacité qui fait que personne, comme il est dit dans l'élément, que personne n'a le texte entre les mains pour l'instant, mais il reste que c'est déjà un grave recul de la démocratie, puisque passer d'une élection au suffrage universel où c'est le peuple qui est élu à une élection où c'est l'Assemblée nationale qui est élue, ça ne peut être qu'un grave recul, même si on n'a pas encore le contenu de cette constitution. Je pense que c'est un recul de la démocratie au Togo, alors que ce qu'on attend, c'est que la démocratie puisse être consolidée, comme vient de nous montrer le Sénégal. Donc on a là deux exemples, deux pays qui empruntent deux voies opposées quasiment. Un pays qui conforte sa démocratie, qui la renforce, et un autre qui prend le chemin opposé. Et ça, je pense que c'est un mauvais signal. Entre les coups d'État que nous avons connus ces derniers temps sur le continent et ce type de réforme, on ne peut que regretter que la démocratie ne puisse pas encore prospérer véritablement sur le continent.
Et pour conclure, il nous faut dire un mot du Niger, quand même du Niger d'aujourd'hui. Les autorités ont dénoncé ce mois-ci les accords militaires entre le Niger et les États-Unis. Ils attendent un calendrier de retrait des Américains. Dans le même temps, les nouvelles autorités s'approchent de poursuivre leur rapprochement avec Moscou.
Oui, je pense que ça, là, il y a, au-delà du cas du Niger, il y a une leçon que les Sahéliens doivent tenir. Ce n'est pas Moscou ou l'Occident. On est sur Moscou et l'Occident. Au regard du défi sécuritaire, au regard du défi du développement qu'il y a en Afrique, je pense que c'est une posture erronée de dire que nous, on choisit la Russie, on rejette l'Occident. Non, chacun des partenaires peut avoir sa propre valeur ajoutée. On sait que l'offre russe est une offre sécuritaire et militaire. Ils peuvent amener des avions de transport de troupes, des avions de combat. Mais sur les questions du développement, la construction de routes, la construction d'infrastructures, la démocratie par exemple, on a besoin d'autres partenaires. Moi, je ne suis pas convaincu qu'on puisse avoir cette posture de la Russie ou l'Occident. Pour moi, c'est la Russie, l'Occident et d'autres partenaires, la Chine, la Turquie, parce que chacun a sa place. Il appartient aux pays africains de s'organiser pour tirer le meilleur profit du partenariat.
Oui, parce que ça a des relents de guerre froide. Hein. C'est soit c'est Washington, soit Moscou.
C'est ça. Et en plus, on présente comme un partenaire vertueux qui va faire presque de la philanthropie, qui n'a aucun intérêt. Non, je pense que c'est cette présentation d'une Russie idyllique, d'une Russie angélique, est une présentation erronée. La Russie a quelque chose à apporter, mais les autres pays ont quelque chose à apporter. Et pendant longtemps, avant la guerre en Ukraine, il y avait une coopération entre la Russie et l'Occident, des échanges intenses économiques entre la Russie et l'Occident, qui étaient fournisseurs de gaz, fournisseurs du pétrole de certains pays occidentaux. Donc il faut éviter qu'au Sahel, les gens s'enferment dans ce piège-là, ou la Russie ou l'Occident. C'est la Russie et l'Occident si on veut avoir le meilleur bénéfice de notre partenariat avec le reste du monde.
Pour repartir dans l'histoire du Niger et du coup d'État que vous décrivez dans ce livre, Sédi Kaba, vous parlez à un moment de kounchérisme. Ça veut dire quoi ?
J'ai appelé ça exactement kounchémania.
Kounchémania,
c'est la nostalgie de Kounché. Quand on regarde aujourd'hui au Niger, il y a une sorte de nostalgie de cette période avec la diffusion du discours du président Kounché, avec son profil, avec sa photo sur le profil de certaines personnes, l'exhumation des chansons à sa gloire. Tout ça fait que par effet de miroir, parce qu'il y a une grande déception envers la période actuelle où la corruption était devenue une sorte de sport national. Alors que sous Kounché, c'était corruption tolérance zéro. Et le pays, à cette époque aussi, était tenu. Et en plus, à cette époque-là, le pays avait quand même engrangé des succès diplomatiques. En juillet 1985, un Nigérien, Ide Omaru, est devenu secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, ce qui est l'Union africaine aujourd'hui. Et le Niger a accueilli la conférence ministérielle de l'Organisation de la conférence islamique. Donc, toute cette gloire perdue-là fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Nigériens ont la nostalgie de Séni Kounché, allant jusqu'à oublier qu'il y a eu quand même pendant cette période certaines violations de droits de l'homme et la confiscation des libertés.
On a toujours tendance à embellir le passé. Hein.
Oui, surtout quand le présent est décevant.
Oui. Merci Sédi Kaba. Votre livre s'intitule donc « Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger, histoire secrète de la rupture ». Donc Séni Kounché et Boulama Manga, livre publié aux éditions de L'Harmattan. Merci encore Sédi d'avoir participé à cette aventure d'une semaine d'actualité.
Mais c'est un immense plaisir et je voudrais vraiment, comme dernier mot, saluer votre humilité, Pierre-Edouard, qui a permis ce compagnonnage pendant 16 ans sans aucun heurt. Je pense que, comme a dit Kedi Bibé, je ne veux pas te tutoyer à l'antenne, mais ton humilité a permis vraiment que tous les invités qui viennent ici gardent de cette émission un excellent souvenir et très bonne continuation.
En tout cas, on se retrouvera sur les ondes de RFI, je n'en doute pas.
Avec grand plaisir, comme toujours.
Merci, Sédic.
Ce premier numéro d'une semaine dans le monde s'achève. Il a été réalisé par Laurence Millier. Alain Autré était à la console. Prochain rendez-vous, samedi prochain. C'est la fin de ce premier numéro d'une semaine en Afrique. Un magazine réalisé par Laurence Millier. Alain Autré était à la console. Prochain rendez-vous samedi pour une nouvelle synthèse de l'actualité africaine.
RFI à Dakar, 92 FM.
De 1996 donc à aujourd'hui 2024, ainsi s'achève cette dernière émission d'une semaine d'actualité, réalisée celle-là par Tiffany Menta, que je salue également. On se retrouve demain pour le magazine Idées qui lui continue sa route. Nous vous proposerons une rencontre avec un esprit libre, un écrivain, un voyageur, un académicien atypique, c'est le moins que l'on puisse dire, un esprit libre, je le répète, il s'appelle François Sureau. Demain dimanche, 19h10, heure de Paris, 17h10, temps universel. Et comme la musique est désormais à l'honneur sur l'antenne, terminons ce dernier numéro avec Claude Nougaro, un titre de circonstance. Il faut tourner la page. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.
Il faut tourner la page, changer de paysage, le pied sur une berge. Vierge, il faut tourner la page, toucher l'autre rivage, littoral inconnu, nu, et là enlacé l'arbre, la colonne de marbre qui fuse dans le ciel. Que tu quittes la terre vers un point solitaire, constellé de pluriel. Il faut tourner la page, redevenir tout simple comme ces âmes saintes dans leurs yeux, mieux que toutes les facondes des redresseurs de monde, des faussaires de Dieu. Il faut tourner la page, jeter le vieux cahier des chars. Oh yeah, il faut faire silence, traverser d'une lance qui fait saigner un sang blanc. Il faut tourner la page, aborder le rivage où rien ne fait semblant. Saluer le mystère.